Les mémoires du prince Harry, la vie secrète des stars de la tech, ce qui se cache derrière notre tendance à tout remettre au lendemain ou la cérémonie des Césars, jusqu'ici, rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces trois sujets de conversation au cours d'un dîner, sans vous poser de questions. Un vendredi soir, ou même un jeudi. Vous savez, ces dîners où l'on parle de tout, de l'important, du futile, de santé, de mode, d'écologie, et oui, du prince Harry. Je vous propose cette fois d'en parler avec un acteur. Je suis Pascaline Potvin, chef de service, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités, un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. Aujourd'hui, je reçois un artiste dont la palette de jeux ne cesse de se déployer. Quand on l'a découvert dans son premier grand rôle, c'était en 2010, dans Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Neil Schneider avait 23 ans et des boucles blondes qui lui donnaient l'air d'un ange sorti tout droit d'un tableau de Botticelli ou d'une gravure de Jean Cocteau. Aujourd'hui, on le retrouve dans Apache, de Romain Quirot, en chef de gang magnétique et ultra-violent dans le Paris des années 1900, un rôle qui évoque celui de Cillian Murphy dans Peaky Blinders ou Daniel Day-Lewis dans Gangs of New York. Entre les deux, on l'aura vu en jeune homme torturé par sa soif de vengeance dans Diamant Noir en 2017, un film pour lequel il a remporté le César du meilleur espoir masculin, mais aussi en amoureux éperdu et un peu perdu dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret, ou plus récemment, en espion romantique dans la série Totem. Cette belle carrière, ses souvenirs d'adolescence, ses forces et ses fragilités, mais aussi des sujets plus légers, autant de questions que nous allons aborder dans ce nouvel épisode de notre podcast Revue. Bonjour Neil Schneider.
Bonjour, merci pour cette belle introduction. Et alors là, si on va parler du prince Harry, je ne sais pas comment je vais faire. Hein, j'y connais rien.
On va s'en sortir. On va commencer par Lucas Bravo, l'un des acteurs de la série Emily in Paris. Il a défilé pour le créateur Louis-Gabriel Nouchi avec le visage ensanglanté. Son allure de dandy violent m'a un peu rappelé celle de votre personnage dans Apache. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle ?
J'adore le cinéma français, j'adore le cinéma européen, qui est un cinéma plus en retenue, plus contenu, parfois plus opaque. Mais j'ai... Enfant, adolescent, le cinéma américain me plaisait aussi très fort parce qu'ils osaient faire des personnages plus colorés, plus grands que nature. Sortir d'un réalisme et ils sont attachés à la notion de divertissement. Et un projet comme Apache, c'était un vrai plaisir qui s'est ressenti aussi sur le tournage. Un plaisir presque très ludique, très enfantin, libre. Et il y a une liberté chez Romain Quirot, une envie de bouger les lignes du cinéma français et de s'approprier certains codes avec des histoires françaises qui m'ont donné très fort envie de le suivre.
Et ce personnage, est-ce qu'il vous ressemble ? Est-ce qu'il y avait des points communs avec lui ?
Quand j'aborde un personnage, j'observe surtout ce qui nous différencie. Et pour pouvoir trouver un chemin vers lui, quoi. Et finalement, peut-être ce qui nous ressemble... C'est déjà là, donc j'ai pas. Ça me libère d'un travail, mais c'est un personnage en tout cas qui m'a fasciné. Je connaissais très peu de choses sur les Apaches, ces premiers gangs de rue, quoi, les premiers gangs de voyous. Puis ils avaient une manière très singulière de s'habiller, c'est-à-dire qu'ils récupéraient des codes de la bourgeoisie. Ils avaient des chaussures jaunes lustrées. Des casquettes hyper stylées, ils avaient une manière très à eux de parler, ils avaient leur propre argot, ils ont créé leur propre danse, qui est à la fois une sorte de tango ultra-violent, et ce sont des bandes qui fascinaient tout à la fois, qui fascinaient et qui terrorisaient les Parisiens. C'était au début du siècle, au début du siècle dernier, et c'était des jeunes... qui n'avaient plus vraiment d'horizon, qui se projetaient pas dans le futur. Ils avaient pas envie de finir comme leurs parents à l'usine. Donc ils avaient pas envie de travailler. Ils avaient du mal avec l'autorité. Donc ils étaient anti-flics, anti-travail et anti-bourgeois, quoi, quelque part. Et c'était des jeunes qui avaient envie de s'amuser et qui avaient une sorte de fureur de vivre. Et voilà.
Timothée Chalamet a révélé qu'à ses débuts, Leonardo DiCaprio lui a donné un conseil précieux : ne jamais prendre de drogue dure et ne jamais faire de films de super-héros.
Un très bon conseil.
Et vous, quel est le meilleur conseil de carrière qu'on vous ait donné ?
Il y a un moment où tout a changé, en fait, pour moi. C'est que quand on commence comme jeune acteur, surtout que moi, j'ai pas vraiment explosé tout de suite. On n'est pas venu me chercher dans la rue. Il y a plein d'acteurs comme ça, Vincent Lacoste par exemple, qui a débuté tout de suite avec un grand rôle et qui a jamais vraiment passé, je crois, l'avoir entendu dire qu'il avait jamais passé d'essai de casting et tout ça. Moi, j'en ai passé énormément. J'ai commencé en faisant de la figuration. J'ai vraiment traversé des étapes qui sont vraiment ingrates, quoi. Et au début, c'est beaucoup d'humiliation, les castings. Et puis, un moment qui avait vraiment changé mon rapport, en fait, aux essais. C'est-à-dire que je m'étais dit, simplement, propose, fais une proposition dont t'es heureux. Et puis, après ça, tu l'oublies. T'as présenté ton travail, c'est pas une question de talent, c'est pas toi qui es jugé. Et surtout, je m'étais dit, eux, ils cherchent un rôle, quoi. Ils cherchent leur rôle. Donc, c'est pas toi qui recherches absolument du travail, c'est... Vois ça, non, retourne l'affaire en disant c'est eux qui c'est un réalisateur qui cherche un personnage. Donc tu lui fais une proposition. Si c'est pas toi, tant pis, mais il y en aura d'autres. Il y a une phrase de Cassavetes que j'adore aussi, qui a débloqué beaucoup de choses chez moi comme acteur, c'est qu'il disait je crois pas aux bons acteurs, aux mauvais acteurs, ça veut tout et rien dire en fait. Tu peux être très bon pour quelqu'un, très mauvais pour quelqu'un. En revanche, il y a des acteurs libres et d'autres qui le sont pas. Et je pense que sa chose la plus importante pour un acteur, c'est de se sentir libre.
Le Prince Harry vient de sortir ses mémoires, dans lesquelles il décrit le sentiment de compétition qui a mis à mal ses relations avec son frère William. Vous avez deux frères, qui sont également comédiens.
Oui.
Est-ce qu'il y a de la compétition entre vous, ou êtes-vous un soutien important les uns pour les autres ?
Il n'y a jamais eu de compétition, vraiment. Et je me suis rendu compte dernièrement, en parlant avec des amis, que c'était vraiment pas le cas, en fait, dans toutes les familles. Et je me rends compte vraiment de la chance qu'on a. Même au contraire, c'est même pas qu'il n'y a pas de compétition, c'est qu'il y a un réel soutien. Ça a toujours été le cas. C'est toujours été le cas. Chaque fois qu'un de nous avait un rôle, tout le monde vraiment se réjouissait. Quand mon frère sort son album... Une très grande solidarité entre nous.
La première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a annoncé à la surprise générale qu'elle allait démissionner parce qu'elle était trop fatiguée, qu'elle n'avait plus de ressources pour être à la hauteur de sa tâche. Ça a été considéré par beaucoup comme un geste courageux. Et vous, dans quelle mesure vous êtes capable d'exprimer vos fragilités, votre vulnérabilité ?
Je ne sais pas, mais c'est vrai que je trouve ça très... très touchant, et je trouve que c'est un signe d'intelligence, vraiment, de reconnaître ses limites, de reconnaître ses failles. Je lisais encore hier un article de Xavier Dolan qui disait que il voulait faire une pause, quoi, qu'il avait plus envie de tourner de film là parce que il sentait qu'il avait plus rien à dire, tout simplement, qu'il était épuisé et qu'il avait donné 15 ans de sa vie au cinéma et qu'il voulait plus de temps pour lui. Et j'ai trouvé ça, ça m'a énormément touché. Mais j'ai trouvé que c'est vraiment la preuve d'une force, d'une intelligence qui en devient une force, de dire stop plutôt que de faire comme si tout allait bien, et puis finalement de faire des films moins bien. On est tous, c'est même pas imparfait, je sais pas si... avoir des limites est un signe d'imperfection, quoi. C'est simplement un signe d'humanité et une conscience de soi, tout simplement. En ce qui me concerne, montrer mes failles, ce qui est génial, ou ce qui bouge en tout cas au cinéma, c'est que un personnage qui... Le cinéma magnifie les failles, magnifie les défauts. Et je pense que, au contraire, au cinéma, plus il y a de défauts, plus le personnage est intéressant. Le cinéma sublime vraiment les défauts, quoi. Et d'ailleurs, ça peut être très chiant, il y a plein d'acteurs, justement, où ça devient insupportable parce qu'ils cultivent tellement leurs défauts que ça devient insupportable. Ils croient qu'ils sont plus intéressants si leurs défauts se voient très fort.
Ça me fait penser à votre personnage, justement, dans Apache. A priori, c'est un personnage qui n'a pas de failles, qui n'a pas de défauts. Vous les avez trouvés où ?
Je trouve que quelqu'un qui est un personnage qui n'ose pas montrer ses failles, qui n'ose pas montrer, justement, ses fragilités, est presque intéressant, quoi. Parce qu'il montre qu'il a quelque chose à cacher. Parce que personne n'est infaillible. Ça n'existe pas.
Aujourd'hui, on nous conseille souvent d'arrêter plein de choses. Le sucre, le café, le lactose, Instagram, les séries télé. Et on s'est dit qu'on essaierait peut-être d'arrêter. Mais vous, à quoi vous êtes accro ? Et quel est le plaisir coupable dont vous ne pouvez pas vous passer ?
Quand je ne joue pas, il y a quelque chose qui me manque. Quand je ne suis pas sur un... On dit avoir la piqûre sur un premier tournage. Est-ce que tu as eu la piqûre ? Oui, il y a quelque chose d'addictif. D'addictif. Et même, je dirais que c'est ce qui est compliqué, c'est bien de ne pas trop, je crois, pour un acteur, de pas trop tourner, c'est bien d'être le plus exigeant possible. Et parfois, on se met volontairement en état de manque, quoi. Et c'est ce truc à gérer quand on a vraiment très fort envie de jouer et en même temps, on essaie quand même de garder une certaine exigence, de ne pas tourner juste pour tourner. Et surtout pour garder un plaisir de jouer. Je crois que, oui, un peu comme une drogue, quand à un moment on tourne trop, on s'habitue, il y a quelque chose, une envie qui peut, un désir qui peut s'évaporer un peu. C'est peut-être ça le plus dur, c'est de garder son désir intact.
Nous sommes revenus sur les accidents vestimentaires survenus aux stars sur les tapis rouges. Et notamment cette fois, en 2021, où vous avez délicatement renoué la bride de la sandale de votre compagne, Virginie Efira, sur les marches du Festival de Cannes. Quel souvenir vous avez gardé de ce moment ? De manière générale, être en couple devant les photographes, ça amène de la force ou de la nervosité ?
Et les tapis rouges, c'est curieux parce que c'est rien, quoi, tu montes des marches. Et en même temps, l'hystérie... Et toujours, moi j'ai toujours l'impression d'être espèce d'animal comme ça, avec des phares dans les yeux. C'est curieux ce moment-là, hein, parce que, sort de la chaussure de Virginie, on montait les marches pour Sibyl de Justine Trier. Et puis, on monte, Virginie perd sa chaussure une première fois, Adèle était à côté, elle lui en remet, elle remonte une marche encore une fois. Ça tombe, et moi, je regardais ailleurs, et c'est Gaspard Ulliel, qui a toujours la classe, qui avait la classe absolue, et qui m'a fait un coup de coude. Il m'a dit, tiens, regarde, Virginie, elle a perdu sa chaussure. Vu que lui, il avait monté plein de fois les marches, il savait que ça créerait un petit événement. Et j'ai couru lui remettre à ses pieds, lui remettre sa chaussure. Mais c'était Gaspard Ulliel qui m'avait dit... Vas-y. Et quand on est amoureux, on est toujours plus fort à deux. Peu importe, et c'est ça qui est génial dans l'amour. Et je trouve que parfois, être en couple, on traverse des périodes forcément pas toujours évidentes du quotidien, mais je trouve que quand même... de traverser la vie à deux, tous ces moments... tous les moments de joie, les moments les plus difficiles, et puis des moments où on se dit, bon, tout seul, ce serait vraiment relou, quoi, mais parce que Virginie est là, on en fait quelque chose, on en rigole, et ça devient quelque chose de joyeux. Oui.
Vincent De Dienne nous a confié qu'il détestait vieillir, qu'il trouvait ça, je cite, « grotesque et laid ». Et vous, prendre de l'âge, ça vous fait quel effet ?
Le truc, c'est quand tu prends de l'âge, je crois que ça te saute un peu à la gueule. Souvent, tu dis « Ah ouais, ouah, putain, j'ai plus 20 ans, quoi. J'ai passé de 20 ans à 35 ans. » Après, là, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je me sens beaucoup mieux dans mes bottes qu'à 20 ans, c'est sûr, qu'à 16 ans. Il y a un recul, c'est que l'adolescent que j'étais continue à vivre en moi, mais je le regarde comme une autre personne aujourd'hui. Et pourtant, c'est peut-être aussi pour ça que je joue, c'est pour garder un lien à l'enfance. Donc, oui, ça me permet d'être pas tout à fait adulte. J'ai encore ce truc de l'ado, je crois, de celui qui veut pas grandir, qui veut pas être adulte. J'ai pas envie d'imiter les adultes. Et en même temps, il y a quelque chose qui se dépose. On est peut-être un peu moins en colère qu'avant.
Dans une interview, Louis Garrel nous a dit que sa mère était une femme tellement puissante qu'elle lui avait fait envisager la féminité comme une force. Quelle image de la féminité vous a transmis la vôtre ? Je crois qu'elle était mannequin.
Ma mère, ouais, elle a fait des mannequinats quand elle était plus jeune. Elle tournait aussi dans des publicités. Elle a été avocate. Et puis après ça, surtout, on était cinq frères. Hein. Donc, après, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de nous. Je sais pas, mon père est aussi quelqu'un qui a deux pôles très forts en lui. Il avait ce qui était à la fois très viril et on peut dire qu'il avait un côté aussi très féminin parce que un goût peut-être plus prononcé pour les arts. Il était danseur, donc très gracieux, une élégance, un soin de lui, un soin de son apparence, je crois. Mon père, il a toujours assumé très fort sa part de féminité. Il nous a toujours dit, au même enfant, un homme a une part. Il y a du féminin, du masculin. On n'est pas d'un bloc, quoi. Je sais même pas moi si j'ai envie de dire. Je pense que je suis quelqu'un d'assez doux. J'ai évidemment une violence en moi aussi. Je ne suis pas que tendresse et douceur, mais je crois être quelqu'un de tendre quand même. J'attribue pas forcément ça à une part féminine. J'attribue ça à de la tendresse, quoi, tout simplement.
Virginie Efira nous a confié qu'elle avait perdu la volonté de plaire à tout le monde, que c'était un projet forcément voué à l'échec et que ça l'a libérée un peu. Et vous, dans quelle mesure vous avez besoin de plaire ou pas ?
Il y a les deux. Je peux pas. Et j'aime bien déplaire. Il y a un truc où je toujours trouver louche ceux qui cherchent absolument tout le temps à plaire. Je trouve qu'on s'éloigne quelque part de soi et surtout dans les personnages que j'incarne ou dans les films que j'aime. J'aime les films qui caresse pas forcément dans le sens du poil le spectateur. Parce que j'aime traiter aussi comme ça, je déteste les gens qui cherchent à plaire absolument, qui sont tous souris, je trouve que ça cache quelque chose. Mais c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, moi j'ai jamais cherché à avoir un grand capital sympathie, d'être l'acteur le plus populaire. J'ai l'impression que j'y trouverais pas mon compte là-dedans, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que les gens qui cherchent pas à me plaire me plaisent, et si moi je cherche pas à plaire, c'est peut-être pour plaire.
Marion Cotillard nous a dit qu'à 47 ans, son amour pour l'être humain ne faisait que grandir. Et vous, à 35 ans, vous éprouvez quoi pour l'être humain en général ?
Bien sûr que j'aime l'humain, mais l'homme est capable de tout, hein, du meilleur comme du pire. Et ça change tous les jours. Hein. Parfois, quand j'écoute les nouvelles, non, hein, je suis là, très heureux que mon chat soit là. Je me dis, t'as de la chance, quoi. Et plus je connais l'humain, plus j'aime mon chat. Non, je pense que je ne deviendrai jamais misanthrope, cynique. J'ai une grande foi en l'humanité. Et en le disant, je ne sais pas pourquoi, en affirmant j'ai une grande foi en l'humanité, je ne sais pas pourquoi j'ai la tête de Woody Allen qui me vient et qui me fait « t'es vraiment con, mon vieux, quoi. t'es vraiment naïf. » C'est les deux à la fois. J'ai l'impression que l'humanité court totalement à sa perte. Là, je ne suis pas très optimiste pour les 200 prochaines années, mais et en même temps, je me dis peut-être qu'il y aura une jeunesse pour la sauver. Mais les êtres humains étaient capables, en tout cas, de faire des grandes choses. Mais je ne peux pas dire que non. Alors, je trouve ça très. Je suis très admiratif des propos de Marion Cotillard, mais moi, je n'ai pas cette foi-là.
Roche Dizem nous a dit qu'il lui arrivait parfois, notamment en promo, de s'auto-souler. Et vous, est-ce qu'il vous arrive de vous auto-souler?
Oh oui, très, très, très souvent. Très, très souvent, je m'auto-soule. Alors, en promotion, c'est encore plus parce qu'on a tendance à répéter les mêmes choses. Puis, en faisant comme si on les disait pour la première fois, donc on fait comme si on cherchait un peu nos mots alors qu'on sait très bien ce qu'on va dire. Ça peut être très drôle quand on est à côté de ses partenaires de jeu qui ont entendu 50 000 fois la même histoire. Donc, avec la fatigue et tout ça, ouais, dès qu'on prend un recul. Sur soi, on se trouve, on saoule et on se trouve surtout un peu ridicule, quoi. Et on n'est pas fait, je trouve, pour parler autant de soi. Moi, je suis pas fait pour ça, quoi. Il y a des gens qui parlent, les gens adorent parler d'eux, en fait, je sais pas. Moi, je suis d'accord plutôt avec Roche Di. Je m'auto-saoule quand je parle de moi. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est quand je joue, c'est aussi parce que je me saoule tout le temps, en fait. Sauf quand je joue.
C'est ce que j'allais dire, quand vous jouez, vous auto-soulez pas. Parce que vous êtes quelqu'un d'autre.
Parce que je suis quelqu'un d'autre. En revanche, je m'auto-soule très fort je me regarde jouer.
Vous êtes incapable de vous regarder jouer?
Impossible. Non, là c'est pas de l'auto-soulage. Là c'est... C'est j'arrête tout. Ma tête, la voix, que je me mets à bouger... C'est tellement énorme que je vous jure que si je suis assis sur un fauteuil, même le fauteuil, tout d'un coup, je dis, pourquoi ils ont pris ce fauteuil? Il n'y a rien qui va avec ce fauteuil. Je dis, mais c'est parce que je suis assis dessus, c'est pour ça. Pourquoi il est assis comme ça, sur ce fauteuil?
Vous n'êtes pas indulgent avec vous-même.
Non, ça c'est sûr. Je vous le confirme. Ouais.
Mais même avec l'âge, ça ne passe pas. On est censé le devenir.
J'avoue que dernièrement, je commence à me trouver pas mal. Non, c'est pas vrai. Plutôt beau gosse. Non, mais c'est pas totalement faux que ça, y a quelque chose qui est un petit peu moins épidermique, quoi. Ouais. C'est chelou, hein, quand même, parce que plus on vieillit, c'est-à-dire qu'à 92 ans, quand je vais être vraiment une espèce de vieille peau, je vais me trouver... on dirait un peu Brad Pitt.
Dernière question, la philosophe Marie Robert a écrit une chronique sur la nécessité de s'octroyer des moments de respiration, notamment pour ne pas se laisser étouffer par son travail. Et vous, vous faites quoi pour respirer?
J'aime bien aller à la campagne, j'aime bien voir des amis. Alors, il y avait un truc, l'année dernière j'avais beaucoup tourné et je m'étais dit, pour respirer, il faut que je sois très haut. Dans les airs et j'avais commencé à prendre des cours de pilotage ça me faisait vraiment rêver, quoi. C'était vraiment un fantasme. J'ai fini ma journée de tournage, je suis à l'aéroport, je loue un petit avion, petit bol d'air frais, finalement c'est quand même super long, quoi, passer son permis et j'ai pas eu le temps de le finir, mais je le ferai un jour. Et sinon, je fais beaucoup de sport. Je fais de la boxe anglaise. Et là, j'ai trouvé un nouveau sport. Ça s'appelle de la calisthénie. Et c'est mélange un peu de gymnastique, d'équilibre, d'agilité, de force. C'est un sport hyper complet que je peux faire partout, dans les chambres d'hôtel, chez moi. J'aime pas trop les salles de sport avec les gens, tu complexes toujours, t'as toujours des gens super musclés à côté de toi. Et puis, je sais pas, je me trouve vraiment trop abruti, quoi, quand je fais ça. Mais du coup, je fais ça, de la calisthénie et de la boxe, une manière de respirer. Ouais.
Merci, Nils Schneider.
Merci à vous.